Je vous invite à vous pencher ce matin, si vous voulez bien, sur un texte de l'Évangile. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles et à garder cette page ouverte dans l'Évangile selon Jean au chapitre 4. Et on va regarder un texte qui est d'une richesse qui nécessiterait plusieurs prédications. Plusieurs prédications, plusieurs études bibliques, parce qu'il est très riche, parce qu'il est très important aussi pour la vie de nos églises nous aussi sur Grenoble nous sommes dans une phase où nous sommes en renouvellement un petit peu au niveau des responsabilités, des réflexions sur notre organisation, structure et ça fait du bien de se replonger dans la parole et de voir ce que l'écriture dit en dehors de toute tendance, mouvement, inspiration autre que celle qui est la seule fiable au final, celle de la parole de Dieu. Et ce texte de l'Évangile au chapitre 4 de l'Évangile selon Jean est un texte qui nous amène au bord d'un puits. Pendant 7 versets, alors un peu plus, mais Jésus va converser avec une femme samaritaine. Et c'est le seul enseignement de l'Écriture sorti de la bouche même de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui va nous apprendre le point fondamental de toute vie chrétienne, celui de l'adoration. Vous ne trouverez pas d'autres textes dans l'Écriture émanant de la bouche de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ que ce texte-là, 7 versets. 7 versets à la femme samaritaine, Jean 4, versets 20 à 26. Il est midi. Il fait probablement chaud, et Jésus va donner cet enseignement. Après avoir déjà conversé un certain temps avec cette femme samaritaine et abordé plusieurs sujets, plus ou moins dérangeants d'ailleurs, Jésus et cette femme samaritaine vont arriver à un point de dialogue, Jean 4, verset 20, et la femme va lui demander la chose suivante. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Jean 4, verset 20. Et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. J'ai le bonheur d'être enseignant à l'université à Grenoble, et ma femme l'est aussi, et on a dû se pencher chacun et chacune sur la pédagogie. C'est toujours étonnant de voir le modèle de pédagogie de notre Seigneur Jésus-Christ qui arrive toujours à ses fins, c'est-à-dire à se déclarer comme étant le Sauveur et le Seigneur, parce qu'au final c'est ça qui est important, il n'y en a qu'un seul, lui. Et au bout de cette conversation, il amène cette femme à constater qu'il est le Sauveur et le Seigneur, et elle va ensuite en parler autour d'elle et bien sûr, propager cette bonne nouvelle que ça y est, le Messie est arrivé. C'est une chose absolument extraordinaire, je trouve, que de penser que le Dieu qui est trois fois saint, le Dieu qui est complet, qui n'a besoin de rien, est en recherche. Ça peut paraître anormal, il y a une anomalie. Il est complet, saint, parfait, et en même temps, il est en recherche. Il est en recherche de quelque chose de spécifique. Il est en recherche d'adorateur. Et quand il a créé l'homme et la femme à son image, il a voulu ni plus ni moins que s'acquérir un peuple qu'il adore. Vous savez, ça remet en place, je crois, un certain nombre d'idées sur des conceptions que l'on peut avoir par rapport à notre propre salut. Pourquoi est-ce que Dieu m'a sauvé? Est-ce que c'est pour racheter ma vie? Oui. Est-ce que c'est pour que je puisse passer l'éternité avec lui? Oui. Est-ce que c'est pour faire de moi un adorateur? Oui, par-dessus tout. Toutes ces affirmations sont vraies. Mais s'il nous a sauvés, c'est pour faire de nous un peuple qui l'adore, un peuple qui l'honore, un peuple qui le célèbre de son cœur et de ses lèvres, par sa vie, par ses actes, par ses pensées. C'était là la pensée de notre Dieu, en nous créant à son image. Et il a tellement voulu avoir une proximité forte avec son peuple, ce peuple d'adorateurs, qu'il a ni plus ni moins que trouvé le plan génial que de prendre une partie de lui-même, de l'arracher et de l'implanter en nous, son Saint-Esprit. Quoi de plus proche qu'être en nous? Plan magnifique de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis heureux de voir dans nos regroupements que nous sommes une confrérie d'adorateurs. Ça pourrait être notre intitulé. Nous sommes des églises locales dans différentes villes qui représentons à chaque fois des confréries d'adorateurs. Et plus le temps passe et plus je comprends dans l'Écriture que c'est la charge, le rôle, la tâche qui incombe le plus à tous les chrétiens et toutes les chrétiennes, que celle d'être des adorateurs sincères en esprit et en vérité. Au-delà d'être anciens, diacre, ou je ne sais quelle autre responsabilité que nous pouvons avoir dans l'Église ou ailleurs, dans je ne sais quelle association, nous sommes adorateurs. C'est ce qui devrait nous définir. C'est ce qui doit me définir. Je dois être un adorateur. Christian a lu en introduction de ce culte ce texte de Éphésiens au chapitre 1, comme quoi Dieu nous a sauvés pour célébrer la gloire de sa grâce. Éphésiens 1. Il ne nous a pas sauvés pour autre chose que ça. Chacun et chacune d'entre nous sommes investis de cette charge, de cette responsabilité. C'est ce que Martin Luther appelait des 1520 en 1520. Ça ne date pas d'hier. Il a appelé ça le sacerdoce universel. Chacun et chacune, au même titre, quelle que soit notre position, quel que soit notre âge, quelle que soit notre fonction, nous sommes appelés à être des adorateurs au même titre, les uns et les autres. C'est un pilier du protestantisme. Et je suis heureux de voir ce matin, d'avoir entendu ce matin des indications libres de chant, par exemple. C'est une habitude qui se perd dans certaines églises locales que de laisser la place à un temps libre où les frères et les sœurs peuvent indiquer des cantiques, mettre peut-être parfois dans l'embarras le groupe de musique. Fermez vos oreilles, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Si c'est le prix à payer pour que chacun et chacune, nous puissions endosser cette charge de sacerdoce universel qu'être un adorateur, ce n'est pas grave. Dans notre église, à Grenoble, nous tenons particulièrement à cette notion-là. À un point où je suis responsable du groupe de musique et on a tenu à garder l'appellation groupe de musique. Ce n'est pas un modèle ni un exemple à suivre, d'accord. Il y a plein de groupes qui s'appellent des groupes de louanges, d'accord, dans les églises. Nous, on a tenu à garder l'appellation groupe de musique de manière à ce que, moi le premier, je puisse me rappeler que nous sommes à la musique uniquement pour accompagner l'adoration du groupe de louanges. Vous êtes le groupe de louanges. Nous sommes, je suis le groupe de louanges. Je fais partie intégralement, pleinement, c'est un sacerdoce universel. Et le groupe de musique a pour vocation d'accompagner musicalement la louange que chacun et chacune d'entre nous, nous pouvons faire monter à notre Seigneur par le chant, ici en l'occurrence. Mais les prières sont des louanges. Un chant qui est lu, c'est une louange. Chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes des adorateurs. Et c'est tellement bien comme ça. Tellement bien. C'est un sacerdoce universel. C'est tellement important de revenir à cette base fondamentale et de nous rappeler qu'avant d'être des spécialistes, nous sommes des généralistes. Qu'avant d'être des personnes chrétiens, rachetés, nés de nouveau, équipés de dons, spécifiques qui sont manifestes, clairement données pour l'utilité commune, nous sommes des généralistes, c'est-à-dire tous et toutes des adorateurs. Soyons vigilants à une certaine forme de spécialisation qui peut au final vite tomber au nombrilisme ou même à l'égoïsme. Ah, tu sais, moi je suis évangéliste. Tu sais, moi je suis pasteur. Moi je suis docteur. Moi je suis ci, je suis ça. C'est étrange, j'entends très peu les gens dire « moi je suis adorateur ». Mais nous sommes des adorateurs. Et ça devrait être le premier qualificatif au final qui nous vient à l'esprit lorsque l'on doit se qualifier en quelque sorte. Nous sommes, avant d'être des spécialistes, avec un don manifeste et spécifique qui a été donné. C'est indéniable, l'Écriture en parle. Et on le voit, on le vit. Nous sommes des adorateurs, des généralistes. Et c'est intéressant de voir ce que l'apôtre Paul lui-même dit en 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, il y a diversité de services, il y a diversité d'opérations, mais le même Esprit, le même Seigneur, le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'adoration englobe le don, pas l'inverse. Le don n'englobe pas l'adoration, le don ne contient pas l'adoration. C'est l'adoration qui contient le don. Et c'est tellement important de nous rappeler ça. C'est un petit peu comme si dans nos églises, il n'y avait pas une tête qui dépassait. Même taille, même profil. Mais simplement, les uns et les autres nous portions en quelque sorte des t-shirts de couleurs différentes pour apporter chacun une touche de couleur, un don spécifique qui a été donné aux uns et aux autres. Mais tout le monde, même taille, même importance, même constitution, homme, femme. S'il y a un mot qui qualifie l'exercice de la vie de l'Église primitive, c'est le mot « ensemble ». Ils étaient ensemble. Dans la lettre aux Actes, en Actes 1, verset 14, 2, verset 46, 4, verset 24, 5, verset 12, 15, verset 25, et j'en passe très, très probablement, ils étaient ensemble, ensemble, ensemble. Il n'y avait pas de différence marquée entre les uns et les autres. Et on vit dans une société qui aujourd'hui n'est pas une société ensemble, c'est une société individualiste dans laquelle on doit réaliser son propre bonheur, c'est mon bonheur, je dois me réaliser. Ensemble, c'est le mot qui est utilisé dans la lettre aux Actes, la lettre des Actes des Apôtres, pour l'utilité commune. Avant tout et par-dessus tout parce que Dieu m'a racheté pour faire de moi un adorateur. Généraliste, membre de la confrérie des adorateurs qui est réunie ce matin, ici par exemple. Dieu cherche à faire de nous pas n'importe lesquels d'adorateurs. Il cherche à faire de nous de vrais adorateurs. Alors, si Jésus insiste sur cette notion de véritable adoration, c'est probablement qu'il doit exister de faux adorateurs. Et on pourrait en dresser des portraits multiples de faux adorateurs, et je vous propose simplement de vous pencher sur deux portraits de faux adorateurs. Le premier portrait sur lequel j'aimerais que l'on se penche rapidement, c'est celui des pharisiens. Alors, on va se pencher très rapidement sur celui-ci, puisque je pense qu'on le connaît assez bien dans nos églises, mais c'est épatant de voir, quand on relit les évangiles, le nombre de fois où Jésus a été confronté sans arrêt à ces pharisiens. Dans nos groupes de quartier ou cellules, ou comme, je ne sais pas comment peut-être vous pouvez les appeler ici, mais dans nos études bibliques à Grenoble, nous avons étudié sur quelques années l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Jean. Et vous savez, au bout d'un moment, c'en est pénible de les croiser. Parce que sans arrêt, on revient sur les pharisiens. Qu'est-ce que c'est un pharisien? Qu'est-ce qu'il faisait? Etc, etc. Et c'est lourd, quoi. Au bout d'un moment, c'est sans arrêt, on les croise. Ils sont toujours là. Dans tous les évangiles, on les croise. sans arrêt problématique, avec les mêmes problèmes. Vous savez, un pharisien, c'est un religieux. Et c'est comme ça que le monde nous voit. Et c'est bien de remettre les choses à leur place et de regarder ces pharisiens auxquels Jésus a été confronté et avec lesquels il a passé un temps considérable à les accuser, les traitant même violemment parfois de sépulcres blanchis, qui était une appellation pas très glorieuse pour l'époque et puis pour maintenant encore, tout simplement parce qu'ils avaient l'adoration de la bouche, mais rien dans le cœur. Ils respectaient les sacrifices, les liturgies, ils venaient au culte à 10h00, ils assistaient probablement majoritairement aux études bibliques. Mais le cœur d'un mort. Le cœur d'un mort. Peut-être que, comme une bonne famille évangélique, ils priaient et chantaient avant de passer à table. Peut-être qu'ils faisaient le ménage, ou peut-être qu'ils, je ne sais pas, on peut extrapoler à ce que vous voulez. Mais rien dans le cœur. Pourquoi est-ce que nous faisons les choses? Pour qui est-ce que nous faisons les choses? Aucun contact de proximité avec Dieu. Dieu était devenu une sorte d'automatisme auquel il fallait répondre. Et eux qui s'estimaient comme étant les nobles descendants du peuple d'Israël, ils avaient sans doute oublié ce que Dieu disait par la bouche du prophète Ésaïe. Et je voudrais prendre le temps de lire ce texte qui, moi, me remet en question régulièrement dans ma vie d'église, où il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à faire. Parfois, on a l'impression, avec mon épouse, qu'on a l'impression de passer nos semaines à l'église dans le sens où soit on invite, soit alors on rencontre des gens, soit on assiste à des réunions, soit alors on est sans arrêt immergé, en fait, dans le bain de l'église, en quelque sorte. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais soyons vigilants à ce que ça ne devienne pas un automatisme. Dieu disait par la bouche du prophète Ésaïe à son propre peuple, peuple qui s'est acquis à Israël. Mais qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, mais qui vous demande de venir? De fouler mes parvis. Cessez d'apporter de vaines offrandes. L'encens me fait horreur. Quant aux nouvelles lunes, au sabbat, aux assemblées, je les aime pas trop. Je ne peux pas voir. Aujourd'hui, on dirait que je ne peux pas les voir en peinture. Je ne peux pas voir le crime avec les solennités. C'est-à-dire qu'en fait, très probablement, le peuple venait rendre un culte, faire des choses, pratiquer la loi, respecter la loi. Mais en dehors, c'était jusqu'au crime. Lorsqu'ils passaient les semaines, leur vie était criminelle par rapport au sacrifice qu'ils étaient en train de rendre au moment où ils étaient dans le temple. Je hais. Oui, notre Dieu a de la haine. Je hais vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge, je suis las de les supporter. C'est violent. C'est violent. Et ça me remet tellement en question parfois par rapport à certaines habitudes que je peux avoir le matin, dimanche matin, automatique, je mets le réveil, tac, on va au culte, et paf, 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 kiff tout, ça s'enchaîne, etc. Cette manière de faire, Dieu la hait. Dieu la hait. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit. Ramenez l'oppresseur dans le bon chemin. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Une adoration qui vient du cœur, c'est une adoration qui se traduit par des actes. C'est une adoration qui va jusqu'au bout. C'est une adoration qui se traduit par des actions. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, ramenez l'oppresseur, faites droit à l'orphelin, défendez l'aveugle. Ce sont des actions. Une adoration qui ne se traduit pas par des actions, c'est du vent. C'est du vent. Vous connaissez sans doute ce vieil adage ou proverbe, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais ce que tu fais parle si fort. Vous ne connaissez pas ? Ce que tu fais parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Ce que tu fais parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Une adoration véritable se traduit par des actes. Elle ne reste pas coincée à des mots. Et prenons garde, et je me remets en question régulièrement, je vous assure, sincèrement, du plus profond de mon cœur, de manière à ce que ce que je peux faire ne devienne pas une habitude, une routine, auquel cas je deviendrai ni plus ni moins qu'un pharisien. Et ce ne serait pas étonnant, vu que Jésus les a rencontrés tant de fois, et il m'étonnerait fort qu'aujourd'hui il n'y ait pas beaucoup de pharisiens aussi. Sinon, les évangiles n'en parleraient pas autant que ça. Le deuxième tableau que je voudrais dresser, c'est celui du contexte de cette femme que Jésus a rencontrée au bord du puits. Une femme samaritaine. Alors, on ne va pas rentrer dans les textes, ce serait trop long, mais pour ceux qui prennent des notes, c'est en 2 Rois, chapitre 17, les versets 26 à 33, qui définit un petit peu le culte des Samaritains. Et, pardon, ce culte est défini, et cette nation, en fait, était ni plus ni moins qu'une nation recomposée. C'est-à-dire, en fait, une nation qui était composée de peuples qui étaient éparpillés à droite à gauche, et puis il y a un roi qui est arrivé et qui a dit « on va regrouper ces peuples ». Et puis, tous ces peuples sont arrivés sur une terre, en Samarie, et au moment où ils sont arrivés sur cette terre, ils ont ramené chacun leur dieu. Donc, en fait, il y avait ce que l'on appelle un syncrétisme plein de dieux, dont l'Éternel, le dieu de la Bible. Donc, sur ce territoire de Samarie, était adorée une multitude de dieux, et au milieu de ces dieux, parmi eux, il y avait le dieu de la Bible. Et c'est intéressant de voir que Jésus dit à cette femme, « Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Parce qu'au final, il rendait un culte, mais à qui ? Je ne sais pas trop. Quel dieu ? Le dieu de la tribu d'à côté, voisin de palier du dieu du machin, du truc, etc. Et puis au milieu, de temps en temps, on en rend un petit peu à l'Éternel. Et vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est un peu comme, ça m'a fait penser à l'apôtre Paul, vous savez, en Actes 17, 33, 23, pardon, qui disait aux Athéniens, en passant chez vous, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. Bon, voilà, comme ça on en pose un et puis le premier qui passe est adoré et puis on ne sait jamais, on peut tomber bon quoi. Est-ce qu'on sait à quel dieu précisément on rend un culte par notre vie quotidienne ? Est-ce que le dieu que nous avons est un dieu que nous connaissons, parce que quand nous venons à l'église le dimanche matin, le dieu est clairement affiché. C'est le dieu de la Bible, avec une fidélité à la parole. Là, on sait qui on est en train d'adorer. Mais lorsque l'on franchit la porte, lorsque l'on sort, que l'on retourne dans nos foyers, lorsque l'on retourne au travail, à nos études, ou je ne sais où, est-ce que l'on sait, est-ce que l'on connaît le dieu que l'on adore ? Et auquel on rend un culte. Et c'est intéressant qu'à la question de cette femme samaritaine, où est-ce que nous devons adorer ? Jésus va répondre, je vais te dire qui. Et après le où, on verra. Jésus ne va pas pointer du doigt le Dieu trois fois saint, il est trois fois saint. Il ne va pas pointer du doigt le Dieu tout puissant. Il est tout puissant. Jésus va pointer du doigt le Père. Il va montrer à cette femme samaritaine qui a eu une vie chaotique. Dans les versets qui précèdent, on a appris qu'elle a eu cinq maris, le sixième n'est pas le sien, une vie conjugale en désordre. Elle vient à midi pour puiser, probablement en pleine chaleur du jour. Elle n'a certainement pas l'intention de croiser qui que ce soit au bord du puits. Elle a perdu toute idée de relation. Elle croise quelqu'un. Elle lui pose la question de « où je dois adorer ?» Il lui répond « voilà qui tu vas adorer. Parce que qui est beaucoup plus important que où ? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je vais te montrer qui tu dois adorer de manière à ce que tu le connaisses. Et il pointe du doigt le Père. Le Père. Pour nous, ce n'est pas très étonnant. On est habitué à l'adoration du Père. Mais pour elle, c'est une révolution. Jamais personne n'avait dû probablement appeler dans son entourage Dieu Père. Dans l'Ancien Testament, Dieu est appelé Père à 14 reprises. 14. Dans le Nouveau Testament, 228. C'est une nouvelle heure. Et c'est maintenant, lui dit Jésus, le Dieu que vous devez adorer, c'est le Père. Il n'était pas défini comme ça dans l'Ancien Testament. Ou en tout cas, ce n'était pas l'attribut majeur qui ressortait. Ce n'était pas le Père spécifiquement qui était présenté dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, Jésus pointe manifestement le Père. Dans l'Évangile de Jean, 100 fois, le Père. Jésus est particulièrement reconnu dans les Évangiles comme étant le Fils de Dieu, qui a son Père. La relation que nous devons avoir est la même que celle que Jésus indique à cette femme. La relation que nous devons avoir avec notre Dieu, c'est la relation d'un Père avec un Fils. La relation d'un Père avec une fille. Une relation filiale. C'est tellement profond pour cette femme. C'est une heure nouvelle. C'est nouveau. Dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, nous dit l'épître de Paul aux Colossiens, l'ombre des choses à venir. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est le Père que cette femme est appelée à adorer, c'est le Père que nous sommes appelés à adorer. Et quand cette femme a posé la question quand même du lieu d'adoration, très probablement que Jésus a dû penser au temple. Manifestement, il a dû penser au temple. Mais pour lui, ce n'était pas le temple, c'était la maison de son Père. Lorsqu'il avait été oublié, entre guillemets, par ses parents dans le temple et qu'il a été retrouvé en train d'enseigner, étant jeune ado, retrouvé en train d'enseigner les scribes et les pharisiens qui étaient présents dans le temple, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? Lorsqu'il apprend à ses disciples à prier, il commence par « Notre Dieu, trois fois saint, tout puissant ». Non. Il commence par « Notre Père ». La relation que Jésus pointe du doigt, c'est la relation du Père. Le Père avec son Fils, le Père avec sa fille. Ce n'est pas une relation, même si notre Dieu est trois fois saint, tout puissant et c'est manifeste. Mais la relation que nous devons avoir pour être des adorateurs, en vérité, c'est une relation entre un père et un fils, entre un père et une fille. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, Romains 8, un chapitre très connu de l'Écriture et qui est probablement l'un des plus costauds aussi de l'Écriture, l'épître de Paul aux Romains est l'épître doctrinale par excellence, complexe, qui apporte tellement de notions en plein milieu du chapitre 8, au verset 12. Romains 8, 12, il va aller plus loin, il ne va pas l'appeler Père, il va l'appeler Abba, Papa. En plein milieu de cet épître qui est un os, en plein milieu de la Bible, solide, costaud, qui apporte tellement de notions magnifiques, l'apôtre Paul va nous montrer, nous dévoiler l'intimité qu'il avait, non pas avec un Dieu lointain, mais un Dieu proche, avec son Papa. Il faut qu'elle connaisse, et il faut que je connaisse, non pas un Dieu lointain, mais un Dieu proche, mon Père. Je dois connaître Dieu comme étant mon Père, Papa. Il n'y a pas d'adoration possible en dehors de cette relation-là. C'est nouveau et c'est maintenant, dit Jésus. En esprit et en vérité, voilà un problème. Une chose qui est difficile à élucider, parfois il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur cette expression en esprit en vérité. je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour m'attarder sur ces deux notions, je vais aller assez vite, mais l'être humain est en quelque sorte constitué de trois parties, corps, âme, esprit. Certains regroupent l'âme et l'esprit. On ne va pas épiloguer longtemps, et puis je n'ai pas la capacité non plus de rentrer dans le détail par rapport à ce domaine qui est parfois assimilé à de la psychologie, alors que ce n'en est pas du tout. Mais certains regroupent âme, esprit, et d'autres dissocient l'âme et l'esprit. Bon. Le corps est facilement cernable. C'est l'enveloppe charnelle, on la comprend assez bien. L'âme, c'est tout ce qui est du domaine de la personnalité, des émotions, des sentiments. Et l'esprit, c'est la partie de nous qui est apte à rentrer en relation avec Dieu. C'est cette partie que vient envahir, occuper, je préfère le mot, le Saint-Esprit au moment de notre conversion. Il n'y a évidemment pas une cloison strictement étanche entre l'âme et l'esprit. Au moment où le Saint-Esprit est venu habiter en nous, évidemment que ça a eu un impact sur nos émotions, sur nos sentiments, que ça transforme, ça modèle petit à petit notre personnalité aussi. Il n'y a pas une cloison strictement étanche, mais il faut reconnaître quand même manifestement une différence entre l'âme et l'esprit. Il y a une vraie différence, c'est que l'esprit qui est en nous, le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, ne change pas, il ne se modifie pas. Alors que notre âme, nos émotions, nos sentiments, ils fluctuent. Il y a une vraie différence entre l'âme et l'esprit. Il n'y a pas une cloison strictement étanche, mais il y a une vraie différence entre l'âme et l'esprit. Et vous savez, lorsque Jésus dit à cette femme que c'est en esprit et en vérité qu'il faut rendre une adoration, ça veut tout simplement dire que la gestuelle, le corps, dans l'adoration, n'a pas d'importance. C'est en esprit et en vérité que nous sommes appelés à adorer. Évidemment, notre adoration est parfois suscitée par un sentiment. Mais seul le Saint-Esprit est capable de rendre cette adoration. Nos émotions, et heureusement, combien le Seigneur a été bon de nous garder, de rendre notre adoration fluctuante selon nos émotions. Parce que, ô combien notre adoration serait en haut, en bas, en haut, en bas, alors que le Seigneur a prévu un plan magistral en faisant en sorte que nous puissions l'adorer par l'Esprit et que ce Saint-Esprit qui est en nous, lui, est d'une régularité, d'une constance implacable. À nous, par notre marche dans une vie de sanctification, de lui laisser toujours de plus en plus de place dans nos vies, de manière à ce qu'il gagne du terrain dans nos vies. Ça, c'est la marche dans la vie de sanctification. Mais ni notre corps, ni nos émotions, sentiments n'ont d'influence, d'importance dans l'adoration qui est entendue par notre Dieu. Il y a des églises dans lesquelles, pendant les chants, les gens lèvent les mains. Et puis il y a des églises dans lesquelles les gens, pendant les chants, baissent les mains. Dans les poches, vous pouvez en mettre une derrière la tête. La gestuelle n'a aucune importance. L'adoration sincère, véritable, vraie, c'est celle qui vient du cœur. Et si, quand il y a des églises dans lesquelles il y a des frères et des sœurs qui lèvent les mains, mais si leur cœur est en cœur d'adoration, mais loué soit Dieu, et gloire lui soit rendue. Et s'il y a des églises dans lesquelles les mains ne sont pas levées et que l'adoration vient du cœur, mais loué soit Dieu et gloire lui soit rendue. Une adoration en esprit et en vérité. Seul le Saint-Esprit peut nous conduire à une adoration véritable. Ne cherchons pas ailleurs qu'une adoration en esprit et en vérité. Cultivons la place du Saint-Esprit en nous par une marche dans une vie de sanctification. Et ça, ça n'a pas d'âge. Quelle que soit la couleur de nos cheveux, ça, c'est quelque chose qui, jusqu'à notre dernier souffle, est un challenge, un défi pour chacune de notre vie. Laisser toujours plus la place en nous pour le Saint-Esprit. Une adoration en vérité, c'est une adoration qui est sincère, tout d'abord. Pas une adoration de la bouche, comme l'avaient les pharisiens, mais une adoration qui vient du cœur, sincère. C'est l'Épître aux Hébreux 10, verset 22 qui nous apprend cela. Et vous savez, la vérité, c'est la parole de Dieu. Et une adoration en vérité, c'est une adoration qui est conforme à l'Écriture. Et combien il est bon de voir dans des chants, d'entendre dans des prières parfois des passages de la parole de Dieu qui sont lus, parce qu'au moins là on est sûr qu'il n'y a pas de bêtises. Et c'est tellement bon de pouvoir nous appuyer sur la vérité absolue, invariable de la parole de Dieu. Dieu a tellement eu à cœur que nous soyons des adorateurs forts, puissants. C'est tellement la raison pour laquelle il nous a rachetés que les deux aspects, l'esprit et la vérité, qui rentrent en compte dans l'adoration, sont deux aspects qui sont inamovibles. Le Saint-Esprit en nous, qui une fois qu'il y est, il y reste, et en vérité, l'Écriture, qui ne change pas un iota. Deux choses qui ne bougent pas selon le contexte de notre société. Nous sommes aujourd'hui toujours capables de rendre une adoration en esprit et en vérité. Je voudrais conclure simplement en vous disant que j'ai beaucoup à apprendre. Toujours beaucoup à apprendre, et c'est un travail qu'on remet sans arrêt sur l'ouvrage, que de pouvoir faire monter à notre Dieu une adoration en esprit et en vérité. Une adoration qui n'est pas la propriété d'un groupe. Je me rappelle de partages, régulièrement je suis amené à avoir des partages sur le sujet de la louange et de l'adoration. Et un jour un frère est venu me voir d'une autre église et il m'a dit, tu sais, je suis déprimé. Et puis vraiment, il était peiné, quoi. Et il dit, parce que ils avaient l'habitude d'indiquer, c'était quelqu'un qui animait la partie louange par la musique, accompagné de la musique, et il dit, j'ai l'habitude de choisir les chants, et dimanche après dimanche, il choisissait les chants, et puis animait cette partie louange. Et puis, est arrivé un dimanche où il a dit, on va faire différemment, et puis je vais proposer une indication libre de chants. Pas un. Et il dit, tu sais, au final, je me suis rendu compte que la louange, c'était moi, au final. Les gens me voyaient comme l'incarnation de la louange. La louange était devenue propriétaire. C'était la propriété du groupe qui était ici. Mais les autres étaient spectateurs, chantaient, donnaient de la voix, mais au final, il n'y avait plus rien qui émanait vraiment. Et il était dans une tristesse, mais profonde. Et ils ont travaillé depuis dans cette église pour essayer de réinstaurer ça. Et ils ont du mal, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile de réinstaurer ces habitudes où chacun et chacune est propriétaire de la louange, acteur, actrice de cette louange et de cette adoration. Et je ne peux pas terminer autrement qu'en constatant que c'est à une femme, samaritaine, pécheresse, qui a une vie dans un désordre monumental, que Jésus a fait cette révélation. Il faut que tu changes. Et il faut que ton adoration devienne une adoration véritable. Une adoration en esprit et en vérité. Et le Jésus que cette femme a trouvé au bord du puits, c'est un Jésus qui commence au verset 7 de Jean 4. Son dialogue par quatre mots qui, moi, à chaque fois que je les lis, me bouleversent. Le Fils de Dieu, Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme, est venu auprès de cette femme pour révéler ce qu'est l'adoration véritable avec quatre mots. Donne-moi à boire. Parce qu'il avait soif. Et Jésus va lui montrer que, bien sûr, il y a une image de l'eau que lui est capable de donner qui jaillira jusque dans l'éternité. Mais il s'est positionné en homme, pleinement homme, en lui disant « J'ai soif, donne-moi à boire. » Et je me pose la question, simplement, dans ma vie, et j'essaye de me souvenir régulièrement de ces quatre mots, comme s'il me les adressait, comme s'il te les adressait. Donne-lui à boire. Que ma vie lui donne à boire. Que collectivement, en assemblée, lorsque nous sommes réunis, nous puissions lui donner à boire. Une adoration en esprit et en vérité, sincère, profonde, qui émane d'un cœur pur que le Seigneur travaille au quotidien par la méditation de sa parole. que ma vie personnelle, une fois que nous nous quittons le dimanche matin ou au moment des études bibliques, que ma vie personnelle lui donne à boire une adoration sincère, véritable, pure, celle qu'il attend en esprit et en vérité. Que le Seigneur nous bénisse, bénisse nos églises réciproques, que nous soyons des flambeaux rayonnants et que émane de nos rassemblements, quels qu'ils soient, à chaque fois une adoration sincère en esprit et en vérité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Thank you.